Bonjour à tout le monde. Brigitte et moi, on tient à vous remercier pour vos prières pour la semaine dernière, pour le mariage en Normandie. Il n'a pas fait chaud, mais il a fait beau. Donc, on a pu être dehors pour les photos et pour le verre d'amitié. Et nous vous invitons tous chaleureusement, dans quelques semaines, on va organiser un petit verre de l'amitié à la fin d'un culte, pour que vous puissiez tous revoir Gavin et Marine. Ce sera sans doute courant juin, mais on vous tiendra au courant avec des annonces. Ça se fera ici, un dimanche matin. Prédication textuelle, prédication thématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a deux sortes de prédication dans nos églises, normalement. Il y a la prédication textuelle et la prédication thématique. La prédication textuelle, c'est quand le prédicateur prend un texte biblique, un texte suivi. On lit le texte, le prédicateur explique le texte et il applique le texte aux auditeurs et à lui-même. Ça, c'est une prédication textuelle. Par contre, il y a des prédications thématiques. Alors, une prédication thématique, c'est lorsque le prédicateur prend un thème dans la Bible qui est éparpillé depuis la Genèse à l'Apocalypse, plus ou moins, et il prend ce thème, il explique le thème, il applique le thème aux auditeurs et à lui-même. Deux types de prédications, grosso modo. La prédication qui convient le mieux pour un culte un dimanche matin, c'est la prédication textuelle, où on prend un texte, on observe, on interprète, on applique. Ceci dit, ce matin j'ai à cœur de prendre un thème. Alors j'espère que vous allez me pardonner cette entorse à la règle, une règle non écrite on va dire, mais j'ai à cœur de prendre un thème auquel je pense depuis deux ou trois semaines, sachant que je devais prêcher ce matin. Et le thème, c'est un thème tout simple, et un thème qui est revenu plusieurs fois dans les prières ce matin. Enfant de Dieu et enfant de lumière. Plusieurs fois, on a fait allusion au fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et plusieurs personnes dans leurs prières se sont adressées à Dieu comme Père. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi enfants de lumière. Enfants de Dieu. Certains chrétiens évangéliques, dans les années 70 et 80, ont été allergiques à ce terme. Allergiques parce que une secte a pris ce nom et a décidé de recruter par des moyens très non évangéliques des membres, des adeptes à leur secte. Et cette secte était fondée par un gourou qui s'appelait Moïse David et la secte s'appelait Enfants de Dieu. Et cette secte était très présente en Grande-Bretagne et dans les grandes villes en France. Lorsque nous habitions au Mans dans les années 80, plusieurs fois des jeunes sont venus me parler parce qu'ils voulaient que je devienne membre de la secte Enfants de Dieu. Cette secte plus ou moins n'existe plus et je crois que le fondateur qui s'appelait Moïse David est maintenant décédé. Enfant de Dieu. Un chrétien est un enfant de Dieu. Il y a quelques années, une femme qui faisait partie d'un groupe de tueurs en Syrie s'est convertie et son autobiographie s'appelle « Enfant de Satan, maintenant enfant de Dieu ». Et elle explique qu'autrefois, elle était enfant de Satan, mais elle est devenue enfant de Dieu. Elle explique sa conversion à Christ dans son livre. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin avec ce titre, c'est regarder quatre aspects de ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu, d'être enfant de lumière. Et le premier aspect, c'est tout simplement la réalité. C'est une réalité. Tout chrétien, tout véritable chrétien est enfant de Dieu. Nous avons eu une jeune femme à la maison cette semaine pour nous parler. Et dans la conversation, j'étais amené à lui dire, « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Elle me dit, « Oui. » J'ai dit, « Mais est-ce que vous êtes converti ?» Elle me dit, « Oui. » J'ai dit, « Est-ce que vous êtes vraiment converti ?» Je voulais vraiment insister là-dessus. Et elle me dit oui. Et puis elle m'a écrit vendredi parce qu'elle dit, est-ce qu'on peut se voir vendredi soir parce que j'ai des questions à vous poser. Mais tout vrai chrétien est un enfant de Dieu. Et je propose une lecture, c'est sur l'écran. Si vous le trouvez, vous pouvez le trouver. C'est dans la première lettre de Jean, non pas l'évangile, mais la première lettre de Jean, 3e chapitre, versets 1 et 2. Je lis ce texte. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean, l'apôtre, souligne le fait que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, c'est vrai, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, je vous encourage, les amis, si vous êtes chrétien, si vous êtes converti, si vous êtes vraiment converti, eh bien, n'ayez pas des crises d'identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes aussi un enfant de lumière, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés dans sa famille. La Bible dit que nous avons été choisis. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec le Christ. Et malgré ce que je suis son enfant. Malgré ce que je ne suis pas, je suis son enfant. C'est la réalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si cela nous dépasse, c'est tout à fait normal. Ça devrait nous dépasser. On ne devrait jamais pouvoir comprendre ce que ça signifie. Mais cela devrait nous émerveiller et nous pousser à louer le Seigneur, à remercier le Seigneur, à adorer le Seigneur sans cesse, non-stop. La réalité, c'est que chaque véritable chrétien est un enfant de Dieu pour l'éternité. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit à un moment donné dans Éphésiens 5, verset 1, « Vous êtes maintenant des enfants de Dieu bien-aimés. » Être un enfant, c'est une chose. Être un enfant bien-aimé, c'est autre chose. Mais chaque chrétien est un enfant de Dieu bien-aimé. C'est cela, la réalité. Maintenant, j'aimerais passer au deuxième aspect, le risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le risque? Eh bien, je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va lire de versets 6 à 10. C'est marqué 6 à 11, mais on va se limiter à 6 à 10. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 10. Le risque. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Le verset clé est sur l'écran. Maintenant, vous êtes enfants de lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Alors, c'est quoi le risque? Eh bien, le risque, c'est qu'un chrétien ne se conduise pas comme un enfant de lumière. Si je bois beaucoup d'alcool, je ne vais pas conduire mon véhicule comme il faut. Mais si je me laisse influencer par des mauvaises influences, je ne vais pas me conduire comme un enfant de lumière. Et c'est cela le risque. Le risque de se laisser influencer par ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Le risque d'être attiré par leurs œuvres, dit Paul ici. Le risque d'être séduit par leurs paroles. le risque d'être tentés par leur comportement. C'est ça le risque. Est-ce que nous nous comportons toujours comme des enfants de Dieu? Parce que le risque, c'est que parfois, on ne se comporte pas, on ne se conduise pas comme des enfants de Dieu. Et lorsque cela nous arrive, nous devons à tout prix nous repentir et revenir sur le bon chemin. Je pense à ce que Paul dit dans Philippiens 2, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Philippiens 2, 14 et 15. Se conduire comme des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Notre génération est perverse et corrompue. La génération passée était perverse et corrompue. La génération de nos petits-enfants sera une génération perverse et corrompue. Et le risque, c'est que des enfants de Dieu tombent dans des pièges. Paul dit ici, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Aujourd'hui ou maintenant, vous êtes enfants de lumière. » Lors d'une interview récente, Bernard Pivot a fait savoir au monde entier le mot de la langue française qu'il aimait le plus. Est-ce que quelqu'un a entendu cette interview ou lu? C'est quoi le mot? Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui. Et il explique pourquoi il aime aujourd'hui plus que tout autre mot. Alors, loin de moi de contredire un grand savant comme Bernard Pivot, mais un des mots que je préfère le plus de la langue de Molière et de la langue de Shakespeare, qui est mort il y a 400 ans hier d'ailleurs, eh bien, c'est le mot « maintenant ». Paul dit « maintenant, vous êtes enfants de lumière ». 1 Jean 3, 1 nous dit, on l'a lu tout à l'heure, « maintenant, nous sommes des enfants de Dieu ». Maintenant et aujourd'hui, on dirait que c'est deux mots qui sont un peu cousins germains, si on veut. Mais cela veut dire qu'il y a eu un autrefois et il y a un maintenant. Il y a eu un autrefois, il y a maintenant un... Oh, maintenant, oui. Il y a maintenant un aujourd'hui. Je me répète peut-être. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons être conscients qu'il y a un risque, un danger. Un risque de glisser, un risque de s'éloigner de Dieu, un risque de tomber dans la tentation et de ne pas résister à la tentation. Le problème, ce n'est pas de tomber dans la tentation, c'est de ne pas résister à la tentation. On est tous tentés. Mais nous devons, en tant qu'enfants de lumière, résister à tout ce qui est ténébreux. Les ténèbres, c'était autrefois. Aujourd'hui, c'est la lumière que nous aimons. Nous devons courir lorsqu'il y a la tentation, lorsqu'il y a la séduction, lorsqu'il y a des gens qui veulent ou qui peuvent nous influencer en mal. Nous devons faire demi-tour et prendre la fuite. Le risque, c'est de ne pas se conduire comme enfant de lumière. La semaine dernière, est-ce que nous nous sommes tous conduits comme des enfants de lumière? La semaine prochaine, est-ce que nous allons nous engager devant Dieu pour qu'on se conduise tous comme enfants de lumière? La réalité, le risque, la responsabilité. On va lire d'autres versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 4. Au chapitre 4, Paul explique que le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, il a donné des dons à son Église, aux hommes et aux femmes dans son Église. Et il a donné des dons, des talents, pour des raisons bien précises. Et on va lire dans Éphésiens 4, à partir du verset 12. Il a fait cela, c'est-à-dire il a donné des dons, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. S'il y a un risque, il y a aussi une responsabilité. Et la responsabilité ici est claire. Dieu a donné des dons, des talents à des chrétiens pour former les chrétiens, pour que chaque chrétien devienne un adulte. On reste quand même enfant de Dieu, on ne va jamais dire juste un adulte de Dieu, on reste quand même enfant de Dieu, enfant de lumière, mais on ne doit pas rester comme des gamins. On doit devenir adulte, mûrir en Christ, devenir des chrétiens mûrs, matures en Christ. Et si nous devenons adultes, selon Paul dans ce texte, eh bien on ne sera plus ballottés, emportés, entraînés par les fausses doctrines, par des idées à la mode, par les ruses des uns et les manœuvres des autres, par des manipulations humaines mauvaises et trompeuses. Est-ce que nous sommes tous des adultes? Lorsque Paul écrit aux Colossiens, il dit qu'il annonce le Christ, il enseigne les chrétiens, il dit « j'avertis les chrétiens et je veux que tout chrétien devienne adulte en Jésus-Christ ». Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devrions être des adultes. Nous devrions chercher à mûrir, à grandir, à croître, à avancer sur la vie, dans la vie chrétienne. À la fin de la deuxième lettre de Paul, au chapitre 3, verset 18, il dit « croissez dans la connaissance et dans la grâce de Jésus-Christ ». Croître, grandir, ne pas rester des enfants. Quelqu'un m'a dit une fois, vieillir est une obligation, tandis que mûrir est facultatif. Alors, tout le monde ne va pas vieillir, hein? Il y a beaucoup de gens qui meurent jeunes. Mais il y a des gens qui vieillissent, mais qui ne mûrissent pas. Et on va y revenir. J'aimerais vous lire cette citation aussi, d'un homme qui est décédé en 1898, qui s'appelait Horatius Bonar, ou en version originale, Horatius Bonar. Un pasteur, ah, voilà sa photo, tiens, il me ressemble un peu. Oh, je crois que j'ai fait quand même un peu plus beau. Voilà un indice, selon ce prédicateur, un indice de la maturité chrétienne. Le chrétien élèvera son maître et parlera moins de ce qu'il fait lui-même. Il deviendra de plus en plus petit selon sa propre estime. C'est un peu ce que disait Jean-Baptiste dans Jean 3. Il faut que je diminue, il faut que Christ croisse. Autrement dit, il faut un chrétien mûr sera de moins en moins égocentrique et de plus en plus christocentrique. Au lieu de centrer sa vie sur lui, il va se centrer sur le Christ. Est-ce que nous sommes des adultes ou est-ce que nous sommes des enfants? Il arrive parfois que lorsque on parle d'une certaine personne, je l'ai dit parfois moi-même, en parlant de quelqu'un, ah oui, mais quand même, il est resté gamin dans son cœur. Ou elle est restée un peu enfant dans son cœur. Et parfois, quand on reçoit des couples à la maison en difficulté, parfois, un reproche que la femme fait à son mari, c'est rarement que le mari fasse le même reproche à sa femme, mais parfois, le reproche que la femme fait à son mari, c'est, mais le problème, c'est mon mari, il est resté gamin. Il faut qu'il devienne adulte, David. Et quand je lui pose la question qu'il ne faut pas poser, mais est-ce qu'il était comme ça quand tu l'as épousé? Et elle va dire, ah ben oui, mais je savais que, je pensais que j'allais pouvoir le changer. Il ne faut jamais épouser quelqu'un qu'on veut changer. Sinon, on ne va jamais changer et puis, bon, ça va être la cata. Et c'est la cata. Alors bon, revenons, laissons les problèmes de couple de côté. Revenons à la vie adulte. Il y a des adultes qui, malgré leur apparence, sont des enfants. On pourrait faire une liste de ce qui caractérise un enfant. Un enfant peut être naïf, il a du mal à maîtriser ses sentiments, ses réactions, il a du mal à se contrôler, il peut être impatient, il manque de discernement, il peut être colérique, très crédule et boudeur. Est-ce qu'il y a des adultes comme ça? Est-ce qu'il y a des chrétiens, soi-disant adultes, comme ça? Revanchards, naïfs, impatients, sans discernement, colériques, crédules, boudeurs. Ah ben, malheureusement, oui, on peut être comme ça. Tout en se disant chrétien, adulte, mûr dans la foi normalement, mais non. On a parfois besoin de grandir et de devenir des adultes. De laisser les choses enfantines, infantiles, derrière, et de devenir adulte, mature en Christ. Dans mon culte personnel ce matin, je suis en train de lire dans Ézéchiel, et je suis tombé dans un verset qui m'a sauté aux yeux, qui est, j'ai marqué de mon petit calepin quotidien, voilà pas une recette, mais un mot d'ordre pour mûrir en Christ. Ézéchiel 20, verset 19, Dieu dit, vivez selon mes commandements, appliquez mes lois, vivez selon mes commandements et appliquez les moi, mes lois. Je recommence. Dieu dit, vivez selon mes commandements et appliquez mes lois. Et plus loin, Dieu dit, en parlant de quelqu'un, cet homme, il vit en accord avec mes lois. Il obéit à mes commandements pour agir loyalement. Je me suis dit, mais ça c'est pas mal comme description de quelqu'un qui est un chrétien mature. Ézéchiel 18, verset 9. La responsabilité, nous avons tous la responsabilité de grandir. Alors, est-ce que nous sommes en train de grandir, de croître dans notre foi? La dernière chose, après la réalité, le risque et la responsabilité, il y a aussi le réconfort. Pourquoi le réconfort? Eh bien, parce que c'est une joie, une grande bénédiction d'être enfant de Dieu. Ce verset nous rappelle, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qu'il aime. Il a compassion de nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quelle pâte nous sommes faites. Il sait ce que nous pouvons porter et sait ce que nous pouvons supporter. Il sait ce que nous pourrons porter et sait ce que nous pourrons supporter. Il est plein de compassion pour ses enfants. Il aime ses enfants avec passion. Il nous aime avec patience. Et heureusement qu'il m'aime avec passion et patience. Heureusement qu'il nous aime avec passion et avec patience. Le psaume 103, verset 13. Dans le sermon sur la montagne de Matthieu 5, 6 et 7, Jésus parle plusieurs fois à ses disciples en disant, votre Père céleste. Et un des versets les plus marquants pour moi dans ces trois chapitres de prédication de Jésus, c'est ce verset-là, Matthieu 6, 32. Votre Père céleste sait. Il est rempli de compassion, il sait. Dans le contexte, il est écrit, il sait de quoi vous avez besoin. C'est vrai. Mais il sait de quoi demain sera fait. Moi, je ne sais rien. Vous ne savez rien. Mais Dieu sait. Et rien que ce verset-là, on pourrait le lire de plusieurs manières différentes. On peut mettre l'accent sur chaque mot. On peut dire, votre Père Céleste sait. Il est notre Père Céleste, à nous. On peut dire, mais votre Père Céleste sait. Il est votre Papa. Il vous a adopté, il vous a pris dans sa famille. Ou on pourrait dire, votre Père Céleste sait. Celui qui est assis dans les cieux, qui voit tout depuis le début jusqu'à la fin, qui est le Tout-Puissant. Il est notre Père Céleste. Et puis, on peut dire, mais votre Père Céleste sait, du verbe savoir. On peut dire, votre Père Céleste fait, ben oui. Votre Père Céleste connaît, ben oui. Votre Père Céleste aime, ben oui. Mais votre Père Céleste sait. Et nous devons toujours nous dire qu'on ne savait plus du tout, mais Dieu, tu es mon Père Céleste et tu sais ce que je suis en train de vivre. Tu sais ce que je suis en train de souffrir. Combien? Comment je suis en train de souffrir? Parce que tu es mon Père Céleste. Père Céleste, tu sais quand je me lève. Tu sais quand je m'assois. Tu sais quand je ne peux pas me lever. Tu sais quand je ne peux pas m'asseoir. Tu sais ce que je dis. Tu sais ce que je pense. Tu sais ce que je ressens. Notre Père Céleste sait. Et pour moi, c'est une source de grand réconfort. Je peux vous le dire. Avec 47 ans, 49 ans plutôt, de vie chrétienne derrière moi, je peux vous dire que combien de fois j'étais reconnaissant parce que mon Père Céleste savait ce que j'étais en train de vivre. Et il le savait parce que je suis son enfant. Parce qu'il m'a pris. Là où j'étais loin de lui, il est venu me chercher. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et avant d'être convertis, nous étions tous vraiment perdus. Et heureusement que le Fils est venu nous chercher et nous sauver. Le réconfort. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, nous sommes des enfants de lumière. Mais nous ne devons pas en rester au stade de l'enfance. Mais nous devons chercher à devenir adultes en Christ. Je termine. Selon l'INSEE, depuis un siècle, les Français ont grandi en moyenne de 10 cm. C'est une statistique qu'on ne peut pas nier. Et combien de fois on nous dit, oh là là, les enfants sont plus grands aujourd'hui qu'autrefois. Eh bien, les Français ont grandi de 10 cm. Je me dis, en un siècle, est-ce que les chrétiens ont grandi? Est-ce que les chrétiens ont mûri? Est-ce que les chrétiens ont cru? C-R, chapeau sur le U, du verbe croître. On a cru, C-R-U, et C-R, chapeau sur le U, du verbe croître, on doit croître en Christ. Est-ce que nous avons, j'allais dire croître, est-ce que nous avons cru, est-ce que nous avons grandi en Christ? Eh bien, il n'y a pas d'appareil pour mesurer notre croissance. Vous savez, il y a des baromètres, des thermomètres, des chronomètres, des alcoomètres, des pluviomètres, des applaudimètres, des tensiomètres, et ainsi de suite, mais il n'y a pas de... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Si quelqu'un a une idée pour créer une machine ou un appareil pour mesurer la croissance du chrétien, je suis prenant. Et je l'achète. Non, je ne vais pas dire que je l'achète. Hein. Mais je vous encourage à chercher quelque chose. Mais nous devons, en lisant la parole de Dieu, on peut quand même se comparer ou trouver des points de mesure pour voir, mais est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? Qu'on soit converti depuis 6 mois, 6 ans ou 50 ans, nous pouvons toujours grandir, avancer et croître en Jésus-Christ. Je relis ce verset dans Ézéchiel 18, verset 9, qui, pour moi, décrit bien un chrétien qui est en train de grandir. Il vit en accord avec mes lois, dit le Seigneur. Il obéit à mes commandements pour agir loyalement. Obéissons, vivons en accord avec ce que Dieu nous dit. Et je garantis qu'on va grandir. On prendra des coups, mais on va grandir. On va avancer. On va croître en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, merci car tu as fait de nous tes enfants. Merci d'être allé nous chercher là où nous étions loin de toi. Merci car nous sommes tes enfants pour de bon. Mais nous te prions, Seigneur, de nous aider à ne pas être des gamins, des gamines. Aide-moi à vouloir grandir en toi. Merci car nous lisons que même le Seigneur Jésus a grandi en connaissance et en grâce. Merci car il a trouvé grâce devant toi et devant les hommes. Nous te prions de nous aider à grandir en toi, à croître dans la connaissance et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On ne veut pas oublier qu'on est enfant de Dieu. On veut être enfant de lumière, mais on veut aussi devenir adulte. Aide-nous, Seigneur, à devenir des adultes en Jésus-Christ, car nous te le demandons en son nom. Amen.